Ceux qui sont présents, ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux, comme il a été mentionné dans la prière, c'est vraiment un privilège de pouvoir être ensemble. C'est vraiment un privilège de pouvoir entendre ce que Dieu a à dire, ce que le Seigneur a à dire. Des fois, on ne réalise pas l'importance et la grandeur de le pourquoi. Nous sommes là. Nous sommes vraiment heureux, bénis de se rencontrer, de prendre un temps ensemble, fraterniser comme les disciples le faisaient. Et c'est quelque chose qui a perduré parce que c'est quelque chose aussi que Dieu chérit. N'est-ce pas? Le Seigneur chérit son Église, chérit ceux qui se rassemblent en son nom. Pourquoi? Parce que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est présent. Il est présent. Et c'est ce qu'on pouvait ressentir ce matin dans la présence de Dieu. Et encore plus, lorsqu'on sait c'est quoi le message que le Seigneur veut nous donner. C'est comme doublement béni, mais ça fait partie. Hein? Et la deuxième bénédiction, elle s'en vient. Elle s'en vient sur votre bord. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au travers les chants, il y a des choses qu'on chantait, mais je ne sais pas, des fois, je me dis, est-ce qu'on réalise vraiment, est-ce qu'on pense vraiment aux paroles qu'on est en train de chanter, qu'on est en train de dire au Seigneur de notre bouche? Est-ce que notre cœur suit, est là, est présent, notre esprit est présent, est uni en Christ dans ce moment-là où on s'approche de lui? Que ce soit par les chants, par la prière, que ce soit par nos actions, nos œuvres, le Seigneur aime cette proximité-là, chérit cette proximité-là qu'on a avec lui. La même chose que pour nous, nous devrions être abreuvés. Hein? On avait des temps de chaleur ces derniers jours et je travaille à l'extérieur et ainsi de suite. L'eau est importante. Et lorsqu'on vient en présence de Dieu, l'Esprit est important. La présence de Dieu est importante parce que c'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. C'est là que le Seigneur envoie ses paroles puissantes et agit. Et c'est le titre du message de ce matin. Les paroles puissantes du Seigneur. Wow! Hein? Et le dernier chant, l'avant-dernier chant, mentionnait ça. Nous amenait à ça. Les paroles puissantes du Seigneur. Jésus nous a enseigné beaucoup de principes qui sont très importants et les a lui-même pratiqués. Pourquoi je dis ça? Parce que le Seigneur est venu avec la parole. Tout a été créé par la parole. La parole est importante. Ce qu'il dit est important. Et pour nous qui sommes en Christ ce matin, notre parole est importante. Ce que nous disons, c'est important pour Dieu. La même chose que le Seigneur, lorsqu'il est venu, pratiquait. Hein? Il n'est pas seulement venu en présence. Il n'est pas seulement venu en esprit. Il est aussi venu en vérité. Et la vérité vient avec quoi? Avec la parole exprimée. Une parole qui touche avec puissance le cœur de ceux qui sont là, qui sont assemblés, qui viennent dans la présence du Seigneur. Et pour nous, nos paroles sont-elles d'amour, de compassion, de pardon, d'honnêteté, de respect, de vérité, comme celles du Seigneur? Ça fait beaucoup de choses, hein? Ça fait beaucoup de choses quand on parle. Ça touche beaucoup d'aspects. Et ça vient chercher et toucher différents aspects de notre vie et de la vie des autres. C'est pour ça que la communion est importante pour Dieu, de s'assembler ensemble. Pourquoi qu'il y a des réunions partout dans le monde depuis, j'étais pour dire depuis que le monde est monde, parce que même dans l'Ancien Testament, le rassemblement est important, le temple est important. On recule dans le temps, et Dieu a toujours chéri son peuple et ceux qui s'assemblaient en son nom. Que ce soit dans la tente, le Seigneur était présent. Et nos paroles ce matin doivent être d'amour, de compassion, de pardon, d'honnêteté, de respect, de vérité, comme celles que le Seigneur avait. Et c'est ce qui nous amène, parce que je ne veux pas trop étirer l'introduction ce matin, on a beaucoup de choses à voir, ce qui nous amène dans notre texte de ce matin, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 4, verset 32. Et Jésus a reçu un témoignage de la manière dont il parlait. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de parler avec des personnes, puis ça, puis à un moment donné, à travers les échanges, tu sais que toi, quand tu parles, là, c'est important. Tu sais que quand toi, tu parles, je ressens l'amour de Dieu. Je vois, j'entends, je vis la vérité à travers tes paroles. Et Jésus, lorsqu'il parlait, ça nous dit que tous étaient frappés de sa doctrine, de ses enseignements, car il parlait avec autorité. Jésus parlait avec autorité. On s'arrête là. Ça n'a pas l'air, c'est un petit verset. Un petit verset, mais très, qui en dit long sur le Seigneur. Sa doctrine et ses enseignements étaient de Dieu. Et la parole que nous lisons et chérissons vient de Dieu. Les mêmes paroles que Jésus a prononcées sont écrites dans ce livre. Et elles ont, ces paroles, la même autorité. Ces paroles ont la même autorité. Vous savez? Ça, je disais que nous sommes vraiment privilégiés d'avoir un Dieu de proximité qui nous donne par l'Esprit la puissance par sa parole. L'une des particularités de Jésus était que tous ceux qui l'entendaient étaient frappés. Ça n'a pas été le cas assez fort. Étaient frappés. On a frappé des mains tantôt. On a acclamé le Seigneur. Et les gens étaient frappés, non pas d'une claque qui vient te jeter à terre, mais frappés d'une manière dont seul lui pouvait toucher le cœur. Et dont, aujourd'hui, il le fait encore. Parce que sa parole n'a pas changé. Et ils étaient frappés de sa doctrine, profondément impressionnés et touchés par sa manière d'enseigner. Le mot et terme employé ici dans le texte grec nous parle d'impact. Une parole d'impact. D'être frappé de stupeur, d'être stupéfaction, et ça nous parle d'un étonnement. Et la parole du Seigneur produit cela encore dans le cœur de ceux qui le cherchent, qui sont ouverts à entendre ses paroles. Pour vous et pour ceux qui nous suivent, c'est la même chose. Le Seigneur veut toucher par son esprit le cœur. Et pas seulement parler pour parler, comme on dit, mais pour toucher, pour faire un changement, une transformation. Quelque chose qui nous étonne. Et lorsqu'on vient au Seigneur, je ne sais pas, mais la majorité d'entre nous, ce matin, je peux vous inclure, parce que je pense connaître un petit peu vos témoignages. Et à travers nos témoignages, bien, le Seigneur n'a pas seulement amené la doctrine et l'enseignement, mais il a amené aussi cet étonnement qui est venu faire une transformation. Il est venu faire la différence. Il est venu apporter une paix profonde intérieure qu'on n'avait pas ailleurs. Il est venu apporter une paix de l'âme, de l'esprit, du cœur, que même les vacances ne produisent pas. Même que ça fait du bien, mais quand même. Ça dure un temps. Mais ce que Dieu produit est là pour l'éternité. Transforme pour l'éternité. Et qui veut retourner en arrière? Quand on sait où est-ce qu'on vient et ce que le Seigneur produit et fait, et comment rejeter cet amour? Comment rejeter tout ce que le Seigneur a fait accompli dans ma vie? Comment mettre ça de côté et dire, je vais aller faire un petit tour ailleurs dans le monde, je vais aller voir comment ça se passe pour me faire du fun pendant un temps? Quand tu as déjà goûté la paix intérieure en Christ, quand tu as déjà été comblé, tu n'as plus besoin de retourner ailleurs. Ça ne devrait même pas faire partie de nos pensées. L'impact des paroles du Seigneur Jésus était puissante et guérissante. Pourquoi les gens étaient frappés de son enseignement? Parce que sa parole était dite avec autorité, qui rendait témoignage de Dieu et de qui lui était. Dans la conscience, dans les cœurs, dans la vie. Parce que c'est son esprit qui faisait son œuvre. Et lorsque je réfléchis à cela, ça donne un sens. C'est pourquoi Jésus disait, il est préférable que je m'en aille, que je vous envoie l'Esprit, le Saint-Esprit. Parce que moi, j'aurais beau parler, vous emmener une doctrine, puis faire le bouffon en avant, sauter, crier. Ça ne touche pas le cœur. Ça ne sert à rien. Seul l'Esprit de Dieu peut le faire au travers des paroles de Dieu. Et Dieu se sert de qui? De toi. Le Seigneur veut se servir de toi pour manifester sa puissance dans la vie des autres. Matthieu semble un peu plus explicite. Lorsqu'il parle de ce texte, dans Matthieu chapitre 7, versets 28 et 29, Matthieu nous dira ceci, « Il arriva, lorsque Jésus eut achevé ses discours, que les foules étaient frappées de son enseignement. » Et ce mot « frappé » vient de l'origine d'impressionner, étonner, hein, comme on a vu. « Car il les enseignait, comme ayant autorité. » Et il m'a amené une petite nuance ici. Non pas comme leurs scribes. Et qui étaient les scribes? Jésus, ça nous dit dans les Écritures qu'il allait tous les jours dans le temple pour enseigner. Pour enseigner la parole de Dieu. Enseigner qui était Dieu. Malgré qu'il avait tous les écrits, Jésus devait aller leur enseigner. À eux même. Aux scribes. Je vais continuer dans ce que j'avais préparé et je vais revenir là-dessus. Jésus enseignait avec supériorité, autorité, pouvoir et droiture, non pas comme leurs scribes. Et ici, on a la description un peu de comment est-ce qu'ils agissaient et comment est-ce qu'ils étaient. Et ça nous dit qu'il se fiait, eux, à leur vaste connaissance approfondie, acquise par l'étude des textes et par quoi, et ce par quoi ils se glorifiaient. Vous savez, c'est comme un peu quelqu'un qui a tellement de connaissances qu'il se promène la tête haute, là, puis il a juste lui qui a raison, puis il sait qu'il a raison. Puis tu auras beau amener tous tes arguments, même le plus finement préparé, tu ne feras jamais changer d'idée. C'est un petit peu ça. Il était tellement convaincu qu'il n'y avait rien à faire. Et Jésus vient les confronter par son témoignage et par l'esprit qui agissait dans le cœur de ceux qui entendaient. Et ça, il n'aimait pas ça. Vous devez connaître. Vous devez venir à la connaissance. Oui, mais la parole de Dieu est amour. Oui, mais il faut que tu connaisses Dieu. Il faut que tu connaisses l'Écriture par cœur. Eux, c'est sur ça qu'ils se fiaient. Et moi, je la connais. Moi, je la connais. Le commentaire disait que l'étonnement des foules était produit par l'autorité avec laquelle Jésus parlait. Et cette autorité résultait d'une part du sentiment de sa mission divine qui animait ses paroles et d'autre part du pouvoir de vérité incontestable qui l'amenait. Toutes ces paroles ne touchaient pas seulement l'attention de ceux qui entendaient, mais elles touchaient le cœur profondément, elles touchaient leur cœur profondément et les transformaient. N'est-ce pas ce que la parole de Dieu nous dit? Que lorsqu'on vient au Seigneur et qu'on commence à le suivre, que l'Esprit qui agit en nous va faire quoi? Va nous emmener de jour en jour, de mois et d'année en année, jusqu'à la ressemblance parfaite de Christ. Ça, c'est sa mission. Et c'est la mission que le Seigneur a commencé en chacun de tous ceux qui ont placé leur vie Christ, qui lui font confiance, qui continuent à persévérer. Un autre commentaire disait, ni cette autorité, ni ce pouvoir, deux sens du mot grec, n'étaient dans l'enseignement de leurs scribes. Scribes. Pour me faire reprendre. Ce pronom, omis par le texte reçu, exprime un mépris trop bien mérité par la manière dont ces savants du temps de Jésus expliquaient et enseignaient les Écritures ou les Saintes Écritures. Et on pourrait marquer, hein, pour tout comprendre puis définir tout cela par l'arrogance. Ils étaient arrogants. Ils n'avaient aucune compassion. Ils n'avaient aucune ouverture d'esprit. Et c'est parfois le problème. Des fois, c'est un problème. Je t'ai pas dit, même dans nos églises. Il y en a qui se fient tellement à leur connaissance, puis leur diplôme sur les murs, puis je ne sais pas que je compte ça. Mais il faut faire attention que ce ne soit pas ça qui soit plus important que l'Esprit de Dieu qui agit. Que l'amour de Dieu prédomine sur tout. N'est-ce pas ce que la parole de Dieu nous enseigne? Dans 2e Épître à Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, je l'avais mis plus loin. 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. Nous pouvons voir un peu plus loin aussi ce que Paul dira à Timothée. 2 Timothée, chapitre 4, verset 2, nous dit, « Prêche la parole. » OK. « Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte. » Avec quelle attitude? Avec toute douceur et en instruisant. Je ne sais pas, mais il y a comme quelque chose qui tiraille dans ce que Paul vient de dire. Ce n'est pas pour vous, là, mais lorsque je dis cela, il y a quelque chose qui vient tirailler. Parce qu'il dit, prêche et enseigne en toute occasion, même favorable ou non. Ce n'est pas le temps, puis enseigne pareil. Il va dire, jusqu'à dire, reprends. OK, tu reprends quelqu'un. Censure, on le voit dans la traduction français courant. Je vais le lire, comme ça vous allez pouvoir suivre. Il dit, prêche la parole avec insistance. Hein? Que l'occasion soit favorable ou non, soit persuasif. Adresse des reproches ou des encouragements. Il me semble que ça a l'air assez direct. Tu n'as pas de demi-mesure. Tu en prêches, tu amènes ça, puis c'est assez strict. Mais j'aime la dernière partie. qui dit « en enseignant avec une patience parfaite ». Vous, français courant, comment est-ce qu'il amène la traduction du mot grec ici de « douceur » à « patience ». Parce que la douceur est dans la patience. Donc, ça veut dire, oui, il y a des choses qui doivent être dites, il y a des choses qui doivent être enseignées, comme Jésus faisait, et c'est ce qu'il faisait. Mais il le faisait toujours avec cette attention, cette douceur, que le cœur reste attaché à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que lorsque je parle, même avec autorité dans le nom du Seigneur, je ne suis pas en train de perdre celui à qui je parle? On voit ça dans d'autres textes dans le Nouveau Testament. Donc, il y a cette patience qui doit faire partie de mon enseignement, de mes insistances. Et même dans les moments favorables, non, lorsque je vais être insistant ou persuasif par rapport à ce que la parole de Dieu dit, je dois être patient avec l'autre. Je dois user de patience. Ce qui devrait être dit l'était par l'Esprit et avec amour, autorité et justice qui vient des Écritures. De même que pour nous, car nous devons enseigner et parfois avec insistance, en étant persuasif sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu, afin que les cœurs soient touchés. Il y a un temps, moi j'aime cette pensée d'Ecclésiaste, il y a un temps pour toute chose. Et s'il nous dit favorable ou non, parce que les choses doivent être dites, mais il y a un temps pour toute chose. Il faut être patient. Le Seigneur, lui, connaît les temps. Il connaît les circonstances et il va tout préparer devant nous, si nous faisons confiance. Et de même que pour nous ce matin, car nous devons enseigner avec insistance et persuasif, être persuasif dans ce que la parole de Dieu dit. Et dans le premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5, Paul dira encore une fois, « Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. » Donc, Encore une fois, Paul a cette approche qui nous dit qu'il a prêché la parole non seulement avec la puissance, avec l'esprit et avec une persuasion, comme on vient de voir, mais aussi avec l'esprit. Au travers de ce qui est dit, il faut s'attendre et s'appuyer sur la puissance de l'esprit au travers de nos paroles. Sommes-nous persuadés par les valeurs, la valeur et la grandeur de celui à qui ou de qui viennent ces paroles dans la parole de Dieu? Sommes-nous convaincus et persuadés de sa véracité et de son autorité? Paul dira dans 2 Timothée, deuxième épître à Timothée, chapitre 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Et verset 4, j'avais plus haut ici. De Timothée 3, 16 et 17. Pardon. Est-ce que c'est ça que j'avais? Oui. Donc, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, pour instruire dans la justice. Et verset 17, « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Paul amène cet aspect à travers ce qu'il vient de dire en mentionnant que lorsqu'on agit de la sorte, lorsqu'on parle avec l'autorité de la parole de Dieu et dans le nom du Seigneur, bien, cela va emmener la bénédiction, va nous emmener dans la bénédiction et dans la volonté de Dieu. Donc, toute l'Écriture, la parole, la Bible, est entièrement inspirée de Dieu lui-même. Elle sert à convaincre celui qui cherche Dieu, à corriger ceux et celles qui désirent lui plaire et à faire sa volonté. Elle sert à instruire ceux qui veulent marcher avec intégrité et selon sa sagesse aussi. Donc, pour nous, pour les chrétiens, les enfants de Dieu, disciples du Seigneur, la parole est notre référence. Parce que la parole vient de Dieu. Et les paroles du Seigneur ont toute autorité. Elles ont tout pouvoir et toute la puissance de changer, transformer les cœurs et les vies. Même si je sais que la parole de Dieu, la bonne nouvelle est l'autorité divine, je sais aussi qu'elle est amour, vérité, réconfort et que j'y trouve la paix dont j'ai besoin. Car elle me comble de sa grâce par l'assurance et l'espérance qui se renouvelle chaque jour et qui vient chaque jour nous réconforter, nous donner la force de passer au travers. Chaque jour. Mais, avec la parole, il y a un danger. Vient un danger avec la parole. Épître Jacques, chapitre 3, verset 1. Et Jacques s'adresse à qui? S'adresse à l'Église. S'adresse aux chrétiens. Et Jacques dira ceci, 3e épître, chapitre 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Ça, c'est le danger. Nous sommes tous appelés en Jésus-Christ. Et j'aime bien ce passage. Où Jésus nous dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il dira ceci, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et quoi? Enseignez-leur. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Et Jacques nous dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Tous sont appelés à conduire des personnes au Seigneur et à être dirigés par son esprit afin que les cœurs se convertissent à Dieu. Mais lorsque vient un enseignement où ça nous dit, verset 20, « Enseigneur, à observer tout ce que je vous ai prescrit, il y a une dimension que toi-même tu dois avoir été instruit. Toi-même tu dois avoir appris à observer la parole de Dieu avant d'enseigner aux autres. » Je mentionne cela parce que des fois, il y a des choses bizarres qui sortent. Je vais le dire comme ça en bon québécois. n'importe qui a un peu enseigné. Regarde, c'est écrit. Tu as juste. Tu fais confiance au Seigneur, tu as donné la vie au Seigneur, tu as été baptisé. Tu peux enseigner. Mais tu dois avoir commencé par avoir été enseigné avant de commencer à enseigner. La parole nous dit-elle pas aussi de faire attention à ce que ne pas laisser la chair ou l'enseignement à un jeune qui vient connaître le Seigneur, c'est ce que ça veut dire. Ou à un enfant qui n'a rien compris des principes de la vie et de Dieu. Je vais le dire parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde a accès à peu près n'importe quoi. Je vois des fois des enfants, ça a 8-9 ans, en train d'enseigner la puissance de Dieu en avant, en train d'enseigner les Écritures. Ça, là, la couche vient d'être enlevée, puis ils sont en train d'enseigner. La parole de Dieu dit faire attention parce que le malin, il va les attraquer, puis pas à peu près. Et cela peut produire de l'orgueil. Et ces enfants vont grandir avec un orgueil, je suis capable, je vais enseigner, puis j'enseigne devant des foules la parole de Dieu. Malheureusement, il y a toutes sortes de choses qui se produisent. Et personnellement, je veux dire personnellement, je ne suis pas sûr que Dieu est dans l'affaire. Donc, sommes-nous ce matin frappés des paroles du Seigneur ou nous laisse-t-elle indifférents, indifférentes? Fait-elle encore effet dans notre âme, notre cœur? Est-ce qu'elle a cette même impact lorsqu'on l'entend, on la lit, lorsqu'elle nous est enseignée et prêchée? Est-ce que cela fait une différence? J'irais jusqu'à dire ce matin que si la parole de Dieu n'a pas cet impact dans ma vie, bien, notre prière va être de la même source. Elle n'aura pas d'impact. Parce que si je ne crois pas que la parole de Dieu que je lis, qui m'est prêchée, que les promesses qui me sont données de la part de Dieu, je n'y crois pas ou je ne mets pas toute ma confiance en elle, je ne peux pas prier avec assurance. Et je ne pourrai pas non plus avoir cette pleine conviction que Dieu est Dieu. Que les paroles du Seigneur viennent nous frapper ce matin. C'est ma prière. Et je préparais ce message et c'est ce qui venait à mon cœur. Seigneur, garde-nous ce feu de l'esprit de révélation en nous. Parce que c'est l'esprit qui nous révèle la parole. C'est l'esprit qui vient toucher notre cœur, transformer nos vies. Garde-nous, Seigneur, ce feu de l'évangile et de la puissance qui vient frapper dans ma vie. Je ne parle pas d'un feu qui te fait tomber à terre. Je parle d'un feu qui te tient debout dans la droiture de Dieu. Ésaïe chapitre 50 avant. Je ne me souviens pas comment est-ce que je leur ai écrit ça, parce qu'il m'est venu un autre texte ce matin que j'ai ajouté. Ésaïe chapitre 50, verset 4 nous dira cette belle prière. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. C'est ça que la parole de Dieu vient faire. C'est ça que la parole de Dieu vient faire. Elle vient en nous à force, par la puissance de Dieu, afin de venir toucher ceux qui sont abattus, ceux qui sont dans l'épreuve, à relever les frères et les sœurs. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Je nous pose la question intérieure. Comment est-ce qu'écoute un disciple? Comment doit écouter un disciple? Ésaïe 55, un petit peu plus loin, les versets 10 et 11. Ésaïe, livre d'Ésaïe, chapitre 55, versets 10 et 11, nous pouvons lire « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. » On pourrait penser à la manne. Hein? Verset 11 « Ainsi en est-il de ma parole ?» qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans avoir ou sans effet. Ça veut dire sans avoir fait effet. Ça veut dire la même chose, mais sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et ça me rappelle ce que notre frère nous partageait tantôt, hein, en présidence. La parole du Seigneur ne retourne pas à lui sans avoir fait effet. Sans avoir exercé sa volonté. Hein, des fois, on a une idée, nous autres, puis comme il disait tantôt, le Seigneur, lui, a un autre plan, encore meilleur. Il va nous emmener dans sa volonté à lui et accomplit mes desseins. Parce que ce qu'il veut, c'est quoi? C'est qu'on le suive, lui. Et non qu'on se pense être le chemin. C'est pour ça qu'il vient nous contrer des fois nos plans, nos affaires. Il vient nous faire des détours parfois. Pourquoi? Pour pas qu'on s'orgueillisse et dire, je suis fils de Dieu, moi, je sais tout. Je suis comme un juif. On a vu tantôt. Le Seigneur te remet ta place assez vite. Il vient nous remettre à notre place assez vite. Jésus dira ceci dans l'Évangile selon Jean, chapitre 18, verset 20. Jésus dit, « J'ai parlé ouvertement au monde. » Et encore aujourd'hui, le Seigneur parle ouvertement. Puisque la parole de Dieu est prêchée ouvertement. Je dirais, avec parfois des difficultés, puis des grands défis, mais la parole de Dieu est prêchée, comme Jésus a parlé ouvertement au monde. Il dit, j'ai toujours enseigné, pardon, et j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent. Et je n'ai rien dit en secret. Jésus était un livre ouvert. Et tous ceux qui l'entendaient étaient touchés, frappés par la puissance des paroles qu'il disait. Et Jésus ne s'est pas caché. Il a été en public. Il a été dans les montagnes, il a été dans les villes, il a parcouru à Samarie, il a été partout, afin d'enseigner les gens sur le Seigneur. Et pour cela, le Seigneur agit encore aujourd'hui. Et si nous sommes ici ce matin, ça c'est la preuve. Ça, c'en est la preuve. C'est la preuve que le Seigneur agit encore Et il vient frapper les cœurs, les vies avec sa doctrine et son esprit. Parce que nous sommes là. Nous sommes les témoignages, les témoins de la puissance de Dieu. Et je terminerai ce matin avec le psaume 119, verset 33, 133, pardon. Le psaume 119 et le verset 133. Et ceci est comme une prière. Une prière qu'on peut adresser au Seigneur. Et le psaume nous dira, « Affermis mes pas dans ta parole. » Affermis ma vie, mon cœur, mon être, mon âme, mon cœur. Affermis-moi tout entier dans ta parole. En somme, que ton esprit me vienne en aide. Et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Qu'il n'y a aucun péché qui vienne dominer sur mon cœur, ma vie, mes pensées. Je trouvais que c'était une très belle prière de circonstance ce matin. Et on ne le fait jamais trop. Prier le Seigneur et s'attendre de lui. Nous approcher dans la présence de Dieu pour entendre, pour l'entendre venir nous ébranler, pour l'entendre venir nous toucher et nous transformer. Donc, que rien ne vienne nous éloigner de la présence de Dieu ce matin. Je m'étais laissé une petite phrase pour terminer. Seigneur, permets que mes paroles soient toujours selon ta pensée. Parce que c'est les paroles du Seigneur que nous voulons dire. C'est les paroles du Seigneur et avec ces paroles que nous voulons toucher les cœurs, toucher les vies. Et notre témoignage, hein? J'étais à une sortie hier, puis un frère menait un témoignage. Le plus grand des témoignages, c'est que Jésus nous a sauvés. Par grâce. C'est que le Seigneur s'est manifesté par sa parole dans notre vie. C'est le plus grand et le plus beau témoignage d'une vie. Amen. Que le Seigneur bénisse ses paroles. Est-ce qu'il y avait un chant de la fin? Non. Est-ce que ça vous tente? Si ça vous tente de rentendre un des chants qu'on a fait tantôt, moi je dirais l'avant-dernier ou le dernier, mais on va-tu avec un vote? On va laisser notre équipe de louanges nous conduire pour un dernier chant.